Je pense donc que la nécessité de vouloir une reconnaissance est une forme de projection d'une incapacité à se dire soi en tant que descendant d'une certaine histoire aux autres, dans la langue des autres. Et c'est cela que cela traduit. Évidemment, pour pouvoir penser, il faut beaucoup de temps. Il faut aussi, puisque vous avez parlé du lien social, il faut être immergé dans un lien social. Or, dans un lien social qui serait évidemment mixte, qui serait avec les institutions, avec la culture du pays où l'on vit. Et c'est là qu'intervient, si vous voulez, le fait que s'il n'y a pas un espace d'écoute, que seul le terrorisme à un moment donné a ouvert, parce que je fais une parenthèse, moi j'ai pas du tout été contente qu'on assassine un ambassadeur turc, ce qui m'a rempli d'aise, c'est que je pouvais enfin, à l'occasion de cet événement, trouver un espace de parole, trouver un éditeur pour ce que j'avais écrit, parce que les médias ne peuvent s'emparer que de l'actualité. Or, pour penser, il faut savoir penser dans la langue des autres. Et il faut que les autres créent un espace de parole. Je voulais préciser cela.
Merci. Merci, Jeanine Altounian. Est-ce que... Oui, une dame au troisième rang qui souhaite prendre la parole.
Oui, à propos de Leibovitz, il ne faisait pas non plus de la Shoah le centre de la judéité, au contraire, il le reprochait. Et à ce moment-là, il renvoyait au Talmud. Quand vous parlez de penser dans la langue des autres, alors j'ai envie de dire à monsieur, moi je suis, disons, ma mère a été déportée, je ne l'ai jamais connue, j'ai eu une histoire tout à fait folle comme bien des juifs. Et alors j'ai pensé dans la langue des autres, et comme ça j'ai exhumé notamment la correspondance de la collaboration française dans le milieu médical, les lettres d'Alexis Carrel et des tas d'autres choses. J'ai trouvé un manuscrit de l'abbé Grégoire que l'on considérait comme anonyme alors qu'il n'était pas du tout anonyme, mais c'était pour des raisons d'État. Là, j'ai pensé dans la langue des autres et j'ai compris ce que ça voulait dire être juif. Alors, je ne sais pas si c'est un... comment s'appelait-il ? Debray disait dans un colloque, vous venez de parler de prix Nobel de la souffrance. Alors, Debray est venu nous dire, vous avez le prix Nobel de la haine des autres. Je ne sais pas si on a le prix Nobel. Enfin, il disait ça, on parlait de Spinoza, et je lui ai dit, mais Freud aussi, enfin, Zweig a écrit, il n'y en a qu'un comme Spinoza, c'est Freud. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà ce qui m'est arrivé en pensant dans la langue des autres, et même, je vais vous dire ce qui m'est arrivé en passant dans la langue des juifs. Alors, penser dans la langue des juifs, j'ai pensé dans la langue de Freud, et le chapeau des juifs, il est toujours par terre. Pardon ? Attendez ! Eh bien, vous savez ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé une lettre d'André Néer, qui venait de Jérusalem sur la Shoah, qu'il avait envoyée, et je l'ai ramassée dans le ruisseau. Bon, je l'ai remise, évidemment, à la postérité. Et j'ai donc pensé entre... le pays, je ne parle pas très très bien l'hébreu, évidemment que j'ai appris l'hébreu et le Talmud, et etc., hein, parce que je n'aurais jamais su suffisamment de langues, mais c'est ce qui s'est passé en essayant de penser entre Israël, les Hassidim, la tradition talmudique, et puis habiter en France et être française, et avoir été publiée comme poète sans l'avoir demandé.
Si, d'autres réflexions, questions, monsieur, madame, pardon, je... Madame, excusez-moi.
Ce qui a été dit sur le fait de penser dans la langue des complices est extrêmement juste. Cela dit, je m'adresserai plutôt à Harold Alexanian. Vous rentrez d'Arménie soviétique et vous avez dit que... d'Arménie russe.
Elle a raison.
Et vous avez dit que les Arméniens ont peur d'une attaque massive turque. Ce ne sera pas une question, mais une observation. C'est sur ce point-là qu'il faut insister. L'Occident est totalement inconscient de la radicalisation d'un nationalisme ethnique et mystique dans l'Oural-Altaï depuis que la statue de Lénine a été renversée et remplacée par la statue de Gengis Khan ou de Tamerlan, je ne me souviens plus et peu importe d'ailleurs. L'Occident est totalement omnibulé par la peur du nouveau communisme dont la République de Slovaquie serait le pays parangon. L'Occident est complètement prisonnier d'un discours proche du ton de la guerre froide. C'est ce discours qu'il emploie pour parler de la guerre en Tchétchénie et de la guerre sur les rives de l'Adriatique, guerre incluse à l'intérieur de la CEE entre l'Italie et la Grèce. L'Occident est complètement aveugle. 35 000 hommes de l'armée turque ont franchi dernièrement la ligne juridique qui sert de frontière entre le territoire placé sous la souveraineté des Turcs et le territoire placé sous la souveraineté des Irakiens. Les protestations ont été très molles. Et j'ajoute que quelques semaines, environ 10 jours plus exactement, avant de déclencher l'opération Tempête du désert, les Américains se sont empressés de fournir des missiles patriotes aux Turcs. Merci.
Bon, bon, merci de votre témoignage, madame. Je souhaiterais maintenant que peut-être un certain nombre de personnes auraient des questions qu'ils auraient à poser plus directement à l'un des orateurs. Ou, bon, voilà, nous avons encore... un quart d'heure, 20 minutes, alors je pense qu'un certain nombre de questions pourraient surgir étant donné la complexité du débat tel qu'il a été, non pas mis à plat, mais évoqué ici.
Bonsoir, j'aimerais poser une question à monsieur Alexanian. Tout à l'heure, il a parlé des intellectuels en Arménie en ce moment et de leur mal à penser. Oui. Je suis française et je ne connais personnellement l'histoire de l'Arménie que depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'avant, je ne savais même pas où c'était. J'ai fait des recherches depuis 2 ans pour écrire un livre sur la musique arménienne. Et dans les livres, dans les bibliothèques, il n'y a rien du tout sur les Arméniens. Sur l'art arménien, on ne connaît pas. Je voudrais savoir, parce que mon art arménien remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ, je voudrais savoir si on arrivait à faire reconnaître l'art arménien d'il y a 2000 ans et l'art arménien jusqu'à nos jours, ça ne serait pas un moyen de favoriser la reconnaissance du génocide arménien.
Bon, alors, monsieur Alexanian, vous voulez répondre ou quelqu'un
c'est pas
d'autre
la, ce que vous évoquez, ça ne concerne pas la situation de mes copains chimistes, écrivains, enfin mes copains et ceux des autres, qui sont en train de crever ou de se transformer en marchands de Coca-Cola ou de je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont obligés de faire ça pour... Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tout un humus intellectuel, tout un potentiel intellectuel et scientifique qui est en train de crever en Arménie, mais vraiment crever.
Oui, enfin, je vous comprends bien, mais j'arrive pas à m'exprimer très bien. Mais je veux dire, l'intellectuel, enfin, les gens qui ont des capacités intellectuelles, et que justement, ils peuvent pas faire autrement que faire ce que vous dites.
Actuellement, en Arménie, ils sont réduits à survivre parce que leur salaire est ridicule. Enfin, c'est pas la seule république, mais puisqu'on parle de l'Arménie, tant qu'à faire. Donc, le salaire. Parlons un petit peu de chiffres, ça va être 3, 4, 5 dollars grand maximum. Le niveau de vie est presque aussi cher qu'en France. Des gens meurent. Je ne voudrais pas lancer un appel. Des gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas être soignés. Et ça, c'est inadmissible. Je ne peux pas en parler. Je ne vais pas m'étaler. C'est ça que je voulais dire. Des gens se laissent crever sur des appendicites. Ça passe aussi mal que tout ce qu'on a évoqué précédemment. Alors, pour en revenir à ce que vous dites, ça n'empêche quand même, et pour rester dans une teinte positive, qu'effectivement, il y a des gens qui font des recherches, qui ont fait des recherches sur des travaux sur l'art arménien ou sur d'autres formes de la culture ou de la vie intellectuelle arménienne. Ce qu'on peut faire pour eux, c'est de faire connaître et diffuser leurs travaux, parce qu'ils sont complètement isolés pour transmettre ou déplacer ce qu'ils ont fait ou confronter ou échanger avec d'autres. Il y a une espèce de ghetto, j'oserais pas appeler ça camp de concentration, un grand ghetto dans lequel les Arméniens aujourd'hui sont placés.
Est-ce que quelqu'un veut continuer à répondre à cette question ? Monsieur, dans la salle, au premier rang, à droite. Ah, il y a quelqu'un d'autre avant. Ah non.
Voilà, moi je ne voudrais pas faire de discours ou même poser une question. Je voulais seulement dire que, en suivant ce débat, j'ai ressenti un profond malaise. En fait, je crois que plutôt que d'expliquer exactement, à part peut-être M. Ternon qui est habitué et qui connaît bien, qui a cette habitude d'explication de l'histoire arménienne, je crois qu'on va ressortir de cette conférence, de ce débat, un peu plus embrouillé et un peu plus triste, un peu plus morose. Et ça me gêne excessivement. Pourquoi ça me gêne ? Parce que moi, personnellement, le génocide, bon, je l'ai vécu au travers de mon père, de mes grands-parents, et pour eux, c'était pas quelque chose de vraiment terrible, dramatique, etc. Évidemment, il s'était passé des choses terribles, mais pour eux, et je crois qu'ils m'ont transmis ça, le génocide, c'était une journée où il fallait lutter, une journée de combat. Et ça, il faut le faire passer. Et je suis désolé. Et je crois qu'au travers de tout ce que vous avez pu dire sur la psychanalyse, etc., etc., ça me dépasse complètement. Je suis horrifié, complètement horrifié. D'autre part, il y a autre chose, je veux dire. Par exemple, quand on oppose l'histoire à la mémoire, on a besoin d'histoire, on a besoin de la mémoire pour faire l'histoire, on a besoin d'histoire pour faire la mémoire. Et je trouve que vraiment, et ensuite, à partir du génocide, mélanger ce qui se passe actuellement en Arménie, sont deux choses qui sont complètement, qui sont liées, mais qui sont différentes. Il faut bien voir que l'Arménie, elle a vécu pendant 70 ans sous un régime communiste, un régime totalitaire, et qu'on ne peut pas reconstruire une Arménie comme ça en 2-3 secondes, c'est impossible. Et je voulais aussi rajouter autre chose, c'est que lorsqu'on parle, bon, un point d'ancrage qui est important, c'est entre, par exemple, le génocide juif et le génocide arménien. Il faut bien voir une chose, c'est que le génocide arménien, les Turcs avaient besoin des territoires. C'était un génocide politique, si ce n'était pas uniquement un génocide, alors que le génocide juif est quelque chose qui est hors du politique, hors du champ politique. Les Juifs ont été massacrés parce qu'il y a un problème racial, un problème, etc. Alors qu'en ce qui concerne les Arméniens, c'était tout à fait différent. C'est beaucoup plus, il y a un ancrage beaucoup plus fort en ce qui concerne le génocide arménien. Et d'autre part, il faut aussi, enfin, il y a tellement de choses à dire. Il y a un syndrome turc chez les Arméniens. Ça, il faut absolument le savoir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 1915 peut encore se reproduire actuellement, parce que les Arméniens, leur à la part, par exemple, c'est Chypre. C'est l'île de Chypre en Méditerranée. C'est un plateau qui est absolument nécessaire pour les Arméniens, pour leur survie. Bon, et on peut faire éventuellement la comparaison avec Israël, qui est entouré de peuples musulmans. Et donc le problème, les problèmes actuels politiques. Il faut aussi parler du politique. Je crois qu'au travers du génocide, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne voudrais pas prendre trop la parole. Je ne sais pas si, à partir des petits points, là, je ne sais pas s'il faudrait peut-être remettre tous ces problèmes à plat. Et, voilà.
Oui, je vous remercie d'avoir introduit le terme de politique dans le propos. Je voudrais simplement rappeler ce que M. Ternon a écrit en conclusion de son texte. Il est vrai que le génocide juif était un meurtre inutile, alors que le génocide arménien a profité à l'État turc qui, pour préserver le bénéfice, s'accroche à sa dénégation. Je crois qu'en effet, la question est aussi politique, mais il y a peut-être différentes lectures du politique. Je crois que c'est ce que nous avons les uns et les autres tenté de faire. Mais je crois que M. Oui. Ternon voudrait dire un mot.
Je voudrais dire un mot parce que ce que m'a dit monsieur m'a beaucoup impressionné. Il y a en effet toute une dimension inexplorée du génocide arménien sur le territoire de l'histoire, justement dans le domaine de l'histoire. Monsieur Moscovici disait tout à l'heure, évoquait tout à l'heure le constat qu'il a fait en découvrant les déportés au moment de 1945, au moment de l'ouverture des camps. Il n'y a pas eu ce constat dans le génocide arménien pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas eu de camp de déportés pratiquement. Et ce sont des histoires individuelles. Des histoires individuelles qui sont restées absolument secrètes ou limitées uniquement au cercle familial ou au cercle au maximum, au cercle d'associations de village. Et cette dimension historique, il est nécessaire de l'explorer maintenant. Et moi, je crois que c'est un travail que nous allons envisager de faire, c'est de traduire, et ça, Kéram Kévonian a lancé ce travail, de traduire maintenant de l'arménien les témoignages des survivants pour comprendre comment, et si je peux employer cette expression positivement vécu le génocide, c'est-à-dire avec la volonté d'en sortir. Ce n'est pas seulement des morts, ce sont des gens qui ont réussi à traverser cet événement qui est la mort par définition et à survivre. Et cette expérience individuelle, multipliée par des dizaines de milliers, qui en grande partie a été écrite et en grande partie quand même recueillie, car tout n'a pas été perdu, malheureusement beaucoup a été perdu, je pense pourrait nous permettre de revoir de l'autre rive, en quelque sorte, cette mémoire. Et confronté à ce moment-là à cette mémoire juive différente, il y aurait certainement un enrichissement par justement ces faisceaux de lumière croisés. Et je crois que vous aviez raison d'évoquer justement ce silence.
Merci. Monsieur et monsieur.
On a évoqué la conversion à l'islam. Je voudrais préciser que lorsque les Arméniens étaient convertis à l'islam, ils n'avaient pas la liberté de garder la langue arménienne. Ils étaient obligés de parler turc. Donc, conversion à l'islam, c'était turquifié. Et je devrais rappeler que le gardien des lieux saints de la Mecque avait condamné le gardien arabe, donc de la dynastie hachémite, avait condamné les touraniens, et que c'est la tolérance arabo-islamique qui a fait qu'ils ont donné l'hospitalité aux Arméniens et qu'ils n'ont pas obligé de se convertir à l'islam. Donc il y a une différence entre les habitudes arabo-islamiques et les habitudes de turquification.
Oui, bien sûr.
Merci. Enfin, ce que vous venez de dire montre la complexité des choses, en effet. Mais monsieur, puis peut-être un ultime tour.
Je voudrais ajouter un certain nombre de choses, si vous voulez, davantage que poser les questions. Car il me semble que jusqu'à maintenant, pour des raisons évidentes qui ont été évoquées déjà par monsieur Ternon et par d'autres orateurs, je peux dire que le génocide arménien, ou ce que nous appelons la catastrophe arménienne, parce qu'en fait, pendant très très longtemps, nous avons une tradition de la catastrophe, et nous appelons ça Arède, ou un terme qui renvoie donc à la catastrophe, puisque le génocide est un terme plutôt récent, comme cela a été évoqué. Je dois dire que la catastrophe arménienne, ou le génocide, a été accaparé par les historiens. Je veux dire, pour des raisons tout à fait évidentes. Accaparer, c'était une très bonne chose. Néanmoins, les historiens laissaient derrière eux une immense littérature, pas nécessairement littéraire, je veux dire. Moi, je suis un historien de la littérature arménienne, donc je suis concerné par l'aspect littéraire de la chose. Mais il y a eu une immense littérature, soit des récits oraux, soit des récits de vie, et toutes sortes de littératures, même par exemple des villages. Il y a des volumes entiers. Chaque village veut réévoquer son passé, donc restituer son dialecte, les histoires de ses contes, etc., comme cela existe d'ailleurs chez les Juifs. Alors, je dois dire que cette littérature, effectivement, comme M. Ternon vient de l'évoquer, c'est ce qui m'a incité à prendre la parole, d'ailleurs. C'est une littérature totalement inexplorée, comme s'il n'y avait qu'à prouver indéfiniment que les victimes ont été toujours victimes et que les bourreaux ont toujours assassiné. Il me semble que pour les recherches, puisque apparemment le génocide arménien est en train de devenir objet d'études universitaires, c'est justement parce qu'il commence à devenir un objet d'études universitaires que l'élargissement de domaine d'études est matière à réflexion.
Merci. Je crois dire un mot.
Alors, si j'ai bien compris votre intervention, la dernière fois que je suis parti pour le CRDR, et essentiellement pour le CRDR, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, puisqu'on a cherché des textes concernant à la fois l'histoire, la mémoire, les particularités. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans toute mon intervention. Il faut passer un seuil pour pouvoir retrouver un rapport vivant à ce qui a existé et qui existe. J'ai remis en cause personne, je n'ai pas voulu oublier le régime totalitaire. Et si j'ai fait des allusions à l'Arménie aujourd'hui, moi, vous m'excuserez, mais je me suis retrouvé dans des situations où je ne savais plus si j'étais dans le Midnight Express ou en Arménie indépendante. Ça aussi, il faut en parler. En quoi on a repris les comportements de nos bourreaux, parfois ? Et pourquoi ? Tant qu'on n'en parlera pas, mais entre nous, je parle pas sur, j'ose même pas parler sur les autres, entre nous, dans l'Arménie d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est tabou et continuer à se taire, sans dénoncer tel ou tel groupe, continuer à se taire, c'est exposer nos frères en Arménie à quoi ? Moi, je peux, pas ce soir, mais je peux parler un peu de ce que j'ai vu, de ce à quoi ils sont exposés. C'est dans ce sens-là. Si on continue à se taire ou à figer uniquement sur la douleur ou le génocide, on oublie de voir tout le reste, tout ce qu'il y a autour, ou tout ce qui était vivant et comment ça se parlait. Tous les travaux d'Adjarian. J'ai rencontré la descendance, enfin la fille d'Adjarian. Effectivement, il y a tout un travail qui n'a même pas été imprimé sur des travaux remarquables sur la langue et sur les dialectes. Voilà ce que je voulais dire.
Merci. Serge Moscovici souhaitait prendre la parole.
Je voulais faire juste deux petites remarques. Je ne pense pas que le génocide juif a été inutile. Il y a toujours des bénéfices secondaires, comme on dit. Non, mais il y a eu beaucoup. C'était assez capital, sinon ce ne serait pas acharné. Deuxièmement, ce que vous avez dit, madame, à propos de la langue, je pense peut-être que les catastrophes ne sont pas seulement des catastrophes de personnes, c'est aussi des catastrophes de culture. Parce qu'il y a quand même une langue qui a été complètement détruite par l'Holocauste, c'est l'Yiddish. Et l'Yiddish est une des 4 ou 5 littératures mondiales. Je pense que c'est c'est devenu une littérature illisible parce que traduit, ce n'est plus lisible. Hein? On ne peut pas se traduire puisque ce n'est pas une langue comme le français, etc. C'est une langue très mélangée et si on la connaît pas par transmission orale, je dirais, c'est difficile à saisir. Voilà ce que je veux dire.
Merci. Je ne sais pas si M. Marian voudrait dire un mot.
Non, moi je voudrais rien rajouter à l'intervention de M. Beledian, je crois. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller, c'est-à-dire l'élargissement de notre vision, de ce qui s'est passé.
Bon, merci. Je crois simplement pour conclure, parce qu'on ne peut jamais conclure un débat pareil, par définition. Ce que je voudrais dire simplement, et c'est peut-être le pari de ceux qui ont organisé cette rencontre, c'est que si le génocide est un temps d'histoire qu'on ne peut en aucun cas oublier, parce qu'on ne peut pas dire que le crime n'a pas eu lieu, on sait les effets d'une telle prédicat, la question, c'est en disant qu'on l'inscrit dans l'histoire, c'est l'inscrire dans une longue histoire aussi de vie. C'est-à-dire lorsque Madame parlait de, par exemple, de la peinture arménienne, de la musique arménienne, de la vie arménienne, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être qu'une manière de transmettre, y compris la mémoire du génocide arménien, c'est l'inclure dans une longue histoire. C'est une histoire qui est aussi faite d'actes de vivants. Voilà, c'est peut-être un optimisme désuet, mais peut-être faut-il le rappeler quand même. Merci beaucoup.
Si tu veux bien, dans le cadre du cycle.
Comment ?
Je voulais que tu annonces le débat.
Ah oui, oui. Alors, il y a un débat qui me semble prendre la suite immédiate le jeudi 22 juin à 18h30, Comprendre l'histoire de notre temps, les États face aux crimes contre l'humanité, avec Georges Bensoussan, Alain Finkielkraut, Madeleine Moukamabano, Yves Ternon, Michel Zawi, animé par Denis Pechanski. Voilà. Donc, 22 juin à 18h30, ici même.